François-Xavier Bellamy, 38 ans, conduit la liste des Républicains pour les élections européennes. 5 ans plus tôt, ce professeur agrégé de philosophie était déjà le tête de liste LR, mais n'avait atteint que 8,2% des voix seulement. Une claque pour le parti des Républicains qui a quand même choisi de reconduire Bellamy à la tête de la liste. À droite, le candidat est reconnu et estimé pour ses combats, sa ligne et son honnêteté intellectuelle.
C'est quelqu'un de très sympathique, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de brillant intellectuellement.
Avec vous, je lance un appel à tous les électeurs LR, à tous les électeurs de droite, à ceux qui, comme François-Xavier Bellamy, devraient être à nos côtés. Rejoignez-nous!
Mais c'est son parti politique qui peine encore à convaincre les électeurs. À 4 mois des élections, et sur la même ligne de départ que Jordan Bardella et Marion Maréchal, Bellamy peut-il rassembler? Bonjour François-Xavier Bellamy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être chez nous. Vous êtes tête de liste du parti des Républicains pour les élections européennes, et je vais commencer en rappelant qu'il y a 5 ans, près d'un tiers des 18-25 ans étaient allés voter pour ce scrutin. Alors, pour commencer, comment convaincre les jeunes qui vous écoutent sur cette chaîne de l'importance de cette élection?
C'est à nous de les convaincre dans cette campagne, mais je leur dirais simplement une chose. Cette élection européenne, ce n'est pas seulement une sorte de sondage en temps réel, c'est d'abord un moment où notre destin à tous va se décider, parce que l'Europe aujourd'hui est à la croisée des chemins, et la France en Europe, bien sûr. Et donc le grand sujet et la grande question que je pose à tous les jeunes qui nous écoutent, c'est: est-ce que vous voulez subir votre avenir ou est-ce que vous avez envie de contribuer à l'écrire? Et moi, tout mon travail, tout mon engagement, moi, je n'étais pas fait pour la politique a priori et je n'ai pas cherché particulièrement à entrer dans cette expérience, mais je le fais parce que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, on ne peut pas se résigner à regarder l'histoire se faire sans nous, à regarder les trains passer. Et le risque pour notre pays, c'est de sortir de l'histoire aujourd'hui, c'est de décrocher vraiment. Donc le grand sujet, la grande question à laquelle il faut répondre, c'est: est-ce qu'on veut être les spectateurs d'une histoire qui se fait sans notre propre décision, ou bien est-ce qu'on veut l'écrire et reprendre la main sur notre avenir?
On dit de vous que vous avez une ligne politique claire. Comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que, si on doit utiliser des adjectifs, est-ce que vous êtes un libéral? Est-ce que vous êtes un conservateur? Est-ce que vous êtes un souverainiste? Est-ce que vous êtes un gaulliste? Est-ce que vous êtes un anarchiste conservateur?
Moi, je me suis toujours senti et je crois essayer de défendre dans le paysage politique ce qu'on appelle la droite. J'ai toujours cru à la démocratie, bien sûr, et je crois que la démocratie, c'est des clivages. Et le grand clivage démocratique qui traverse toutes les démocraties occidentales, c'est le clivage entre la gauche et la droite. Deux manières de voir le monde, deux manières de se rapporter à la réalité, deux tempéraments politiques. La gauche, c'est le regard qui est porté sur le monde à partir de l'obsession de le transformer. La gauche, c'est une manière de voir dans la réalité ce qu'il faut changer. Et c'est la raison pour laquelle la gauche a toujours une familiarité avec la tradition révolutionnaire. La gauche, c'est une colère, c'est un ressentiment, c'est la volonté de lutter contre des injustices réelles ou supposées. La droite, au contraire, c'est un regard porté sur le réel qui y voit d'abord ce qui mérite d'être non pas transformé, mais transmis. Parce que la réalité, bien sûr, elle est toujours insatisfaisante, frustrante, décevante, mais en même temps, nous avons dans nos mains des biens qui sont infinis dans leur valeur et qui sont d'autant plus fragiles que précisément ils sont nécessaires. Et par conséquent, le premier devoir du politique pour un responsable de droite, pour un politique de droite, le premier devoir du politique pour ce tempérament-là, c'est d'abord la prudence à l'égard de ce que nous avons reçu, la volonté de transmettre, qui ne veut pas dire l'inaction, au contraire. Il faut se donner à fond, il faut agir énormément, et en particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut un courage infini pour réussir à sauver ce qui doit l'être, pour réussir à sauver ce qui fait les conditions d'une vie décente, d'une vie digne, d'une vie vraiment humaine, d'une vie juste, les conditions même de la vie, parce que nous sommes dans le moment de l'inquiétude environnementale, et on voit bien que si on ne fait rien, si on n'agit pas, eh bien, c'est justement cet héritage essentiel qui risque d'être perdu. Sauver la nature, mais sauver aussi la culture, c'est, je crois, ce qui fait, au fond, l'inquiétude de la droite. La droite, c'est peut-être une manière de renoncer à la folie un peu flamboyante de la révolution et de s'obliger à la mission plus humble, plus déterminée, sans doute plus inquiète, mais qui, je crois, est aussi une mission d'avenir et de vie, celle de transmettre aux générations qui viendront les biens que nous avons reçus, le pays que nous avons en héritage, sa langue, sa culture, sa souveraineté, notre continent avec sa civilisation et, encore une fois, je le redis, notre monde avec les conditions de la vie qui méritent d'être préservées.
Donc si je vous suis, la différence entre la gauche et la droite, c'est une différence d'échelle ?
Non, pas du tout. Au contraire, c'est une différence radicale, une différence d'attitude.
Oui, mais vous parliez de cette capacité à se projeter, à avoir le regard loin. C'est pour ça que je parle d'échelle, c'est-à-dire peut-être que si je traduis ce que vous venez de dire, la gauche se concentre sur l'individu, sur le court terme, là où la droite a plus de hauteur de vue.
Non, la gauche, c'est la volonté de tout changer, et la droite, c'est la volonté de sauver ce qui doit l'être dans le monde actuel. La gauche, c'est un ressentiment, c'est une colère, c'est une forme d'irritation contre la réalité. La droite, c'est une tendresse à l'égard de cet héritage magnifique et fragile. C'est un émerveillement qui implique une responsabilité. Et c'est le sens de cette responsabilité. Et je le redis, là où la gauche, vous le voyez aujourd'hui, se passionne pour la déconstruction, elle veut tout déconstruire, elle veut déconstruire la culture, elle veut défaire l'héritage. La droite, au contraire, elle veut transmettre, elle croit à la fécondité de ce que nous avons reçu et elle veut l'offrir aux générations qui viennent. Et c'est ce sens du temps long, en effet, mais d'une certaine manière, la gauche a aussi le sens du temps long quand elle veut faire la révolution. C'est ce sens de la générosité envers le temps long qui fait, au fond, je crois, le propre de ce tempérament de droite, qui fait que je me suis toujours engagé à droite et qu'aujourd'hui, c'est cette action-là que je mène au Parlement, que je mène dans ma campagne et que je continuerai de porter.
À propos de cela et de votre combat pour l'Europe, quel est pour vous l'exemple du père fondateur, votre modèle plutôt du père fondateur de l'Europe ? Est-ce que c'est Jacques Delors ? Est-ce que c'est Jean Monnet ? Est-ce que c'est Robert Schuman ? Est-ce que c'est Philippe de Villiers ou un autre ?
Ah, je ne sais pas si Philippe de Villiers... je le mets pour qui j'ai une grande estime, peut être considéré comme un père fondateur de l'Europe. Ce que j'admire beaucoup chez lui, c'est le fait qu'il ait su alerter il y a longtemps. On voit aujourd'hui la révolte des agriculteurs sur les impasses dans lesquelles s'engageait une certaine construction européenne. Non, mais je crois à l'esprit des origines. Et c'est vrai que, prenez la figure d'un Robert Schuman, par exemple, c'est quand même marquant de se dire qu'aujourd'hui, nous devons poursuivre le travail commencé par des gens qui avaient vécu dans leur chair la réalité de la guerre, de ces guerres mondiales, de ces guerres successives que s'étaient livrées les pays européens et qui ont dû faire de ce travail de réconciliation la mission de leur vie. Je ne veux pas, au fond, dire qu'on puisse se contenter de ça pour parler de l'Europe aujourd'hui. Il ne suffit pas de rappeler l'histoire des guerres mondiales pour dire que l'Europe est nécessaire. Il faut encore trouver son sens aujourd'hui, il faut encore la remettre dans la bonne direction. Mais malgré tout, on ne peut pas ne pas être admiratif de ce qu'ont fait des gens qui avaient été marqués par la violence inouïe des guerres mondiales et qui ont trouvé malgré tout la force de cet acte de pardon sur laquelle la paix en Europe se fonde encore aujourd'hui.
D'accord, donc Robert Schuman comme exemple, est-ce que vous avez toujours été aussi éclairé sur cette question quand vous étiez plus jeune ? Est-ce qu'en 2005, vous aviez voté le référendum ?
Non, mais encore une fois, moi, c'est le premier vote de ma vie 2005. J'ai voté non au référendum sur la
Constitution européenne. Donc, il y a une cohérence de ce point de vue-là.
Oui, j'ai jamais changé d'avis parce que je crois qu'on doit travailler ensemble en Europe, bien sûr. Qui peut penser le contraire ? Qui peut penser qu'on va s'en sortir tout seul face aux défis migratoires ? C'est impossible. Même si Bruxelles n'existait pas, ni la Commission, ni aucune institution, demain, si l'Italie est victime d'une crise migratoire massive, évidemment, elle aura des conséquences sur la France. Et au fond, ça n'est même pas une question d'espace Schengen, de traités, de conventions, d'accords, de tout ce que vous voudrez. C'est la réalité géographique qui nous lie. C'est la réalité d'un continent qui, aujourd'hui, a des principes communs à défendre. C'est une réalité de civilisation. L'Europe, c'est un continent marqué par cet héritage de civilisation et par l'unité de la forme démocratique que nous avons donnée à nos nations. Nous tenons à la liberté. Et là encore, qui ne voit pas que si nous ne défendons pas ensemble nos libertés face à la montée de modèles comme celui de la Chine, qui incarne le retour d'une forme d'autoritarisme caractéristique du XXIe siècle, avec tout ce que l'autoritarisme a de nouveau et d'inédit, face à la concurrence des États-Unis, parce que les États-Unis sont évidemment nos alliés, mais ils sont aussi nos concurrents, nos compétiteurs, nos rivaux sur bien des sujets. Eh bien, qui ne voit pas que l'Europe a quelque chose à défendre ensemble ? Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous soyons aujourd'hui dans une situation où nos États devraient fusionner dans une sorte de grand tout européen. Je n'ai jamais cru ça. Et c'est la raison pour laquelle j'avais voté non en 2005, parce que je ne croyais pas qu'il devait y avoir une constitution européenne, comme si au fond nous nous engagions dans une forme de fédéralisme. Ça, c'est la vision que portent aujourd'hui à Bruxelles les élus d'Emmanuel Macron. Il y a quelques semaines, nous avons voté un texte sur la réforme des traités européens. Les élus macronistes, aujourd'hui, il faut que les Français le sachent, ils votent pour la fin de l'unanimité dans la politique étrangère en Europe. Ils votent pour créer une compétence fiscale. Ça veut dire pour donner à Bruxelles le droit de lever des impôts à la majorité qualifiée, c'est-à-dire que on pourrait décider, la Commission pourrait décider depuis Bruxelles d'un impôt sur le sol français sans même l'accord du gouvernement français. Ils votent, par exemple, entre autres, pour un référendum européen qui aurait du coup nécessairement l'effet de diluer notre démocratie nationale dans un grand référendum global. Ils votent pour créer une compétence exclusive sur les sujets environnementaux au plan européen. Ils votent pour retirer des traités le fait que les États membres sont souverains sur leur mix énergétique. Ça veut dire aujourd'hui, la France a le droit de définir son propre mix énergétique et c'est un enjeu de souveraineté majeur. Notre parc nucléaire, c'est une filière qui contribue à la souveraineté nationale, y compris par la dissuasion nucléaire militaire qui est assise sur cette compétence nucléaire civile. Bref, vous le voyez, autant de choix politiques très clairs qui sont en réalité contraires à l'esprit et à la lettre de la Constitution de la Ve République. Moi, je ne crois pas à cette perspective. Je crois exactement le contraire. Je pense que l'Europe ne se renforcera pas en fragilisant nos États, mais qu'au contraire, l'Europe sera plus forte quand elle rendra nos États plus souverains. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui et s'engager dans ce fédéralisme clandestin, comme le disait Raymond Aron, dans une vision qui consiste à dépouiller nos États de leur capacité d'action au motif que ça viendrait renforcer l'Union européenne. Ça me paraît être le contresens absolu dans lequel il faut refuser absolument de s'engager.
Je reviens sur votre campagne. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 février. Je le dis parce que cet entretien sera publié sûrement plus tard. Et la veille, vous avez nommé comme numéro 2 de votre liste Madame Céline Himard, qui est une agricultrice du Tarn. Pourquoi ce choix ?
Parce que Céline Himard, elle représente exactement la France pour laquelle nous voulons travailler. Elle représente aussi exactement l'engagement politique qui caractérise aujourd'hui la droite française. C'est une femme de terrain. Elle est agricultrice, vous l'avez dit.
Pas politique de formation.
Elle n'est pas politique de formation, moi non plus.
Moi non plus.
Elle représente des Français qui bossent, qui produisent, qui nous font vivre. Parce que les agriculteurs, ils font aujourd'hui la condition de la sécurité alimentaire du pays. Ils produisent ce qui est le plus nécessaire à la vie. Et pourtant, ces gens qui travaillent aujourd'hui sont confrontés à une contrainte de plus en plus asphyxiante, à des normes, à des complexités, à des contrôles, à une surveillance qui leur rend la vie impossible, qui leur donne le sentiment d'être traités comme des suspects ou bien comme des délinquants. Je pense aux agriculteurs, mais on pourrait parler aussi des pêcheurs, on pourrait parler des PME, des patrons de petites et moyennes entreprises, de leurs salariés, on pourrait parler de notre industrie. Tout le monde en France qui produit, tout le monde productif français est confronté au fait qu'aujourd'hui, la première difficulté, elle se trouve finalement non pas chez nos concurrents, chez nos compétiteurs, non pas dans le fait d'aller chercher des clients, elle se trouve d'abord dans le fait de devoir faire face à cette espèce de rouleau compresseur du contrôle public qui s'exerce sur ceux qui travaillent chez nous. Et Céline Himard, elle vient porter la voix de ces Français qui n'en peuvent plus, de ces Français qui croient aussi à la force de notre pays parce qu'elle a réussi, elle n'est pas là pour, elle vient pas là pour se plaindre, elle vient là pour montrer
est-ce qu'elle a été dur à convaincre ?
Le talent de nos filières. Et moi, je suis très heureux qu'elle ait accepté. Elle a pris le temps de réfléchir et c'était complètement normal. Ce n'est pas anodin de s'engager en politique aujourd'hui. Ce n'est pas une évidence absolue dans le moment que nous traversons. Mais je suis très heureux qu'elle ait accepté et qu'avec son courage, avec son talent et avec son élan, on puisse porter cette campagne ensemble.
Est-ce que sans la récente révolte agricole du mois de janvier, qui est une rébellion, on va dire, assez inédite, pacifique au passage, etc., qui a marqué ce début d'année, est-ce que sans cette révolte, Céline Himard aurait figuré sur cette liste ?
Nous, on discutait avec elle depuis très longtemps. Elle est en lien avec les Républicains depuis longtemps, même si vous l'avez dit, elle n'est pas politique de métier, mais elle avait eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises dans le cadre d'échanges organisés par le parti ou bien sur le média du parti qui concurrence pas VA+, mais quand même qui permet de faire vivre lui aussi à sa manière le débat public. Donc Céline avait déjà eu l'occasion d'intervenir dans ce cadre-là. Et pour nous, vous savez, les sujets d'agriculture, on les a pas découverts au moment de la révolte des agriculteurs. Ça fait 5 ans qu'on bosse sur ces sujets avec ma collègue Anne Sander, qui elle aussi vient du monde agricole, qui siège en commission de l'agriculture, qui s'est battue avec détermination. Et il faut peut-être juste prendre le temps de raconter ce qui s'est passé au Parlement européen ces dernières années.
Je vous en prie.
Pourquoi est-ce que les agriculteurs, aujourd'hui, se révoltent ? Ils se révoltent parce que, je le disais à l'instant, ils ont le sentiment d'être traités comme des délinquants et que tout est fait pour les empêcher de produire. Mais ça, ce n'est pas un accident. C'est un projet. Et ce projet, il a été porté avec détermination pendant des années par des forces politiques en Europe, par les socialistes, le commissaire à l'environnement, M. Timmermans, par des écologistes et par les députés macronistes. Et je pense à Pascal Canfin en particulier, j'ai eu l'occasion de débattre avec lui, on a eu l'occasion de se confronter à de multiples reprises au cours de ce mandat. Il était président de la commission de l'environnement au Parlement européen et c'est lui qui a porté avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'énergie, un projet de décroissance agricole, notamment, pas seulement, mais un projet de décroissance, en particulier de notre agriculture, au Parlement européen. De décroissance agricole parce que, au tout début du mandat, il voulait qu'on mette dans la politique agricole commune l'obligation de 10% de jachère pour les agriculteurs. On a obtenu de négocier pied à pied pour faire baisser ces 10%, pour les faire baisser à 4%, et ensuite, ces jachères ont été suspendues. Il voulait, après même ce débat sur les jachères, que dans un texte qui s'appelait « Restauration de la nature », on impose aux agriculteurs de geler 10% de toute la surface agricole européenne. Ça, c'est une stratégie globale qui s'appelait « Farm to Fork » que la Commission européenne portait. On s'y est opposé, nous, dès le début, avec Anne Sander, avec les Républicains, on a alerté sur le sujet. Et c'est nous qui avons fait tomber ces 10% de folie. Parce que 10% de gel de la surface agricole, ça voulait dire, toutes les études le montraient, une baisse de la production agricole et donc alimentaire en Europe, une augmentation de notre dépendance aux importations. Donc en fait, on donne un avantage à des modèles de production à l'extérieur de nos frontières qui respectent aucune de nos règles. Ça voulait dire une baisse du revenu des agriculteurs, qui sont déjà trop bas. Ça voulait dire une hausse des prix de l'alimentation pour les consommateurs. C'était tout faux sur toute la ligne. On le dit depuis des années.
Au profit de qui ?
Au profit d'une idéologie, au profit d'un rêve idéologique qui est celui, encore une fois, de la décroissance. C'est le rêve de l'écologie qui veut faire diminuer la production. Et finalement, au profit de qui ? Vous posiez la question. Ben, d'abord, au profit, encore une fois, de nos concurrents étrangers, parce que du coup, ils se mettent à nous vendre ce que nous ne produisons plus. Et d'ailleurs, on peut se demander qui finance aussi cet agenda politique, qui finance, c'est une question que j'ai posée avec détermination là aussi au cours des dernières années, qui finance un certain nombre d'ONG qui militent pour cet agenda de décroissance. Moi, je sais très bien, si j'étais un concurrent étranger de l'Union européenne, je sais très bien comment j'irais essayer d'influencer le débat européen. On l'a vu sur d'autres sujets, par exemple sur le nucléaire. Et puis au profit peut-être de toute une industrie qui n'attend que de se développer. C'est Pascal Canfin qui, dans une note à Terra Nova, vous savez, le think tank de la gauche, Pascal Canfin expliquait très tranquillement que ça, c'était pas très grave, cette décroissance agricole, parce que maintenant, on allait pouvoir fabriquer du lait de synthèse en laboratoire. On allait pouvoir fabriquer de la viande de synthèse en laboratoire et que par conséquent, on pourrait bientôt, je cite son expression littérale, bientôt on pourrait se passer entièrement de vaches. Voilà, c'est ça l'agenda écologique défendu par les macronistes. C'est-à-dire, évidemment, vous avez vu comme moi peut-être que Bruno Le Maire fait la publicité de start-up qui crée de la viande de synthèse. On voit qu'il y a autour de ce monde du macronisme, finalement aussi des intérêts économiques très forts qui ont envie d'investir dans des produits de substitution à la production alimentaire de nos éleveurs, de nos agriculteurs.
Mais alors justement, je me permets de vous couper, quel est ce logiciel de pensée qui consiste, donc de la part de ces députés macronistes, qui consiste à favoriser les productions étrangères ? Qu'est-ce que ça dit ?
Mais ça dit au fond l'effacement, vous savez on parle de la cancel culture, mais c'est une manière d'effacement. C'est une manière de s'effacer du monde, vous voyez. Il faut décroître et disparaître, il faut se mettre à l'écart de la réalité d'un monde où, au contraire, l'époque n'est pas du tout à la décroissance.
Ce manque de fierté, si vous voulez, pourquoi ne pas défendre les producteurs locaux ? Parce que c'est un manque de fierté, par ailleurs, je dis ça, mais c'est peut-être un autre mot.
Oui, mais c'est plus grave encore que ça. Parce que je suis sûr que les mêmes feront de grands discours sur le fait qu'ils sont fiers de l'agriculture, mais il y a vraiment, dans cette vision portée sur les questions environnementales, il y a une forme de myopie absolument aberrante. Je prends un exemple tout simple, prenez la question de l'énergie. Ce sont les mêmes écologistes et les mêmes macronistes qui ont attaqué pendant des années le nucléaire français, qui ont attaqué le nucléaire parce qu'il fallait faire baisser la production d'énergie. Mais la vérité, c'est que grâce au nucléaire, la France a aujourd'hui le point de PIB le plus décarboné de toute l'Europe. Et que l'Europe a aujourd'hui le modèle de production le plus exigeant au monde du point de vue environnemental. Donc tout ce que nous ferons pour fragiliser notre production européenne, nous le ferons contre la cause de l'environnement. Je le dis d'ailleurs parce que je sais que c'est un sujet qui inquiète beaucoup les jeunes générations, et c'est complètement normal. Mais pour un jeune Français aujourd'hui, on a une chance incroyable. Ce n'est pas seulement une question de fierté, c'est aussi un projet de vie. Pour un jeune Français, on a une chance incroyable. Plus on produira en France, plus on servira la cause du climat, la cause de l'environnement. Tout ce qu'on fera pour abîmer la production française, on le fera pour donner des parts de marché, pour donner des avantages compétitifs à des modèles de production qui détruisent bien plus la planète que nos propres producteurs nationaux. Bien sûr qu'on peut certainement, sur certains sujets, faire mieux. Bien sûr qu'on peut certainement, sur certains sujets, faire plus. Mais le plus important pour nous, en Europe, c'est pas de continuer à imposer des contraintes de plus en plus compliquées aux producteurs européens. Le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que les autres grands producteurs mondiaux sortent d'une production qui, elle, abîme la planète. Le vrai problème de l'environnement, c'est pas, comme le raconte la Cour des comptes, c'est pas l'élevage français, c'est ridicule. C'est pas nos vaches dans nos prés qui constituent un problème majeur pour le climat. Le vrai problème pour le climat, s'il y a une corrélation entre l'activité humaine et le dérèglement climatique, le vrai problème, il se trouve dans le fait que la Chine a annoncé l'année dernière qu'elle ouvrait 2 nouvelles centrales à charbon par semaine. C'est ça, le sujet du climat. Et donc, la vraie question pour nous, c'est comment on recommence à produire chez nous. Là, la Commission européenne s'est engagée dans une stratégie zéro émission en 2050. Il y a une manière super simple de faire zéro, hein. C'est zéro production, zéro création, zéro travail, zéro richesse, zéro innovation, zéro invention, zéro effort, zéro vie. Et là, pour le coup, effectivement, on pourra se dire qu'on ne produit plus rien. Mais en produisant plus rien, on sera devenu seulement les dépendants et donc les vassaux de ceux qui produiront pour nous tout ce qu'on aura besoin d'acheter.
Mais elle est peut-être là, d'ailleurs, la grande contradiction. Si je me fais l'avocat du diable, je pourrais vous dire, je ne parle pas du tout au nom de VA+, c'est pour ça que je précise avocat du diable. Mais si demain, vous voulez relancer l'industrie française, certains vous diront, oui, mais en relançant cette industrie-là, on va émettre davantage d'émissions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'en étant aussi passif et en dépendant des industries internationales, certains se disent, au moins on n'est pas responsable direct.
Mais est-ce qu'il vaut mieux produire des choses chez nous qui sont faites avec une énergie nucléaire qui est décarbonée, qui n'émet pas de carbone, qui ne contribue pas à la pollution et au dérèglement climatique? Est-ce qu'il vaut mieux produire chez nous avec une énergie décarbonée ou importer de Chine quelque chose qui est fait avec une énergie faite avec du charbon massivement et qui en plus traverse les océans pour arriver jusqu'à nous? C'est le contresens total. C'est le même Pascal Canfin, c'est très intéressant, le même Pascal Canfin qui vote pour, donc député macroniste, créer encore plus de contraintes pour les agriculteurs en France. Ensuite, il signe pour l'accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande, contre lequel j'ai voté, qui va faire venir de l'autre bout du monde, 20 000 km d'ici, des agneaux transportés dans de l'azote liquide et des tonnes de lait en poudre qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète. Est-ce que c'est ça l'écologie? C'est le contresens total. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'interdit de produire et ensuite on fait venir de l'autre bout du monde, dans un pays qui, lui, pour le coup, ne pratique aucune de nos règles sur le plan environnemental, des productions alimentaires qui ont un impact écologique absolument destructeur. Donc, le vrai sujet, si on veut vraiment servir la cause de l'environnement, c'est de produire chez nous d'abord et ensuite d'utiliser notre marché, qui est un atout exceptionnel, d'utiliser notre marché pour contraindre les grands producteurs mondiaux à décarboner. Ça, c'est ce qu'on a fait. C'est l'une des vraies grandes réussites de ce mandat. C'était notre premier engagement de campagne. On avait dit il faut créer une barrière écologique à l'entrée du marché européen. Et ça, on l'a créé. Ça s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone. Ça veut dire que si vous produisez de l'acier en Chine et que vous le vendez en Europe, vous allez devoir payer une taxe pour le carbone que vous émettez quand vous produisez de l'acier. Quel est l'effet? Le double effet positif. Le premier, c'est que du coup, la Chine commence à avoir un intérêt économique à sortir du charbon. Et c'est ça la vraie urgence. Et le deuxième effet bénéfique, c'est qu'on redonne des conditions de concurrence loyales à ceux qui produisent en France. Parce que du coup, eux, qui ont une fiscalité très lourde, qui ont des charges importantes dont ils doivent s'acquitter, eh bien, ils retrouvent une forme d'équilibre avec cette production chinoise qui jusque-là ne devait faire avec aucune de nos taxes et aucune de nos charges.
Je reviens sur votre liste. Donc, votre numéro 2 est Madame Céline Imar. Est-ce que pour VA+, vous pouvez nous donner une exclusivité et nous donner un prochain nom ?
Ah non, je suis désolé. On ne peut pas encore vous le dire. D'abord parce qu'on est en train d'y travailler avec Éric Ciotti. Et puis parce qu'on va prendre le temps de cette campagne justement pour annoncer cette équipe au fur et à mesure. Mais promis, on en parlera avec les excellents journalistes de valeur.
Vous êtes 100% libre pour constituer cette liste. Je vous dis ça parce qu'il y a 5 ans, on avait mis à vos côtés Agnès Evren, Arnaud Danjean, etc., qui n'étaient pas exactement sur votre liste. Et c'était interprété, ou c'était même quasiment assumé, que ces deux personnalités étaient à vos côtés pour adoucir la ligne Bellamy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes 100% libre pour constituer ceux qui vont se présenter avec vous?
Oui, bien sûr, on y travaille ensemble, mais je voudrais vous rassurer sur ce point. On a eu une vraie grande unité dans l'approche des sujets avec la liste que j'ai conduite dans la dernière élection européenne. On avait un programme, on avait 70 propositions, on les a déroulées méthodiquement sur la question du commerce mondial, on en parlait à l'instant, sur la question des frontières, de la protection du continent européen sur, face à l'immigration illégale, sur les sujets liés à la relance de notre industrie, sur la protection de notre agriculture. On a été une équipe extrêmement soudée. Et au fond, vous savez, entre la Macronie qui pratique le « en même temps » et qui dit le contraire à Paris de ce qu'elle fait à Bruxelles, et puis le Rassemblement national qui a dit sur l'Europe absolument tout et son contraire, dans un temps assez record d'ailleurs, bah je nous trouve plus cohérents, plus constants et plus unis que la plupart de nos concurrents aujourd'hui.
Alors je reviens sur ce que vous venez de dire à propos du RN. Vous avez déclaré il y a peu, notamment dans un article de Valeurs Actuelles de notre excellent journaliste politique Édouard Roux, vous avez dit « le RN n'a servi à rien pour défendre les Français, ils n'ont aucun bilan ». Comment expliquer alors cette avance considérable dans les instituts de sondage ?
Moi, je pense que le RN ne fait même pas campagne sur son bilan parce qu'il sait ne pas en avoir. Donc le fait est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est très particulière à la France d'ailleurs et qui me semble caractéristique du piège politique que le pays traverse aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure, le grand clivage démocratique pour moi, c'est le clivage entre la droite et la gauche. Moi, j'assume d'être de droite. Au RN, je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de dire la même chose. Marine Le Pen, la première, comme Emmanuel Macron, refuse de se définir comme étant de droite ou de gauche. Et la vérité, c'est que d'ailleurs, sur beaucoup de sujets, et notamment sur sa vision économique du monde, elle l'a encore rappelé il y a quelques jours, elle est profondément de gauche en réalité. Donc elle pratique, elle aussi, le « en même temps ». Et on est confronté à cette espèce d'étonnante partition entre Macron et Le Pen, entre le RN et la République en marche, Renaissance, qui finalement sont devenus les partenaires les uns des autres, qui n'existent que parce qu'ils veulent, qui n'existent que négativement. Voyez-le, dans cette élection, Renaissance va venir en disant « Oh là là, attention, c'est terrible, le Rassemblement national peut gagner », comme la dernière fois, et le Rassemblement national ira dans cette élection en disant « Si vous voulez taper Macron, votez pour moi ». Mais ça ne fait pas une politique. Pardon, mais moi je suis un électeur aussi. J'attends qu'on me prenne au sérieux, qu'on me dise quel est le projet, quelle est la vision, quelles sont les mesures, quels sont les combats qu'on va mener demain au Parlement européen. Jordan Bardella dit « moi, je ne vais pas au Parlement européen pour chauffer un siège à Bruxelles », c'était son expression. Ça sert à quoi d'être élu au Parlement européen si c'est pour pas y être ? C'est le Parlement européen, un endroit où des choses, je le disais en commençant, des choses déterminantes se jouent pour notre avenir. Et moi, ce que je trouve désolant dans la situation actuelle, c'est qu'on vend aux Français un faux débat. C'est un faux débat. Le vrai débat n'est pas là. Au Parlement européen, le vrai débat, le vrai clivage, il est entre la droite et la gauche. Les deux grandes forces politiques qui s'affrontent en Europe, c'est la droite et la gauche. Et il faut qu'on sache où on est, qu'on sache où on habite, si on veut pouvoir agir, si on veut pouvoir peser. On n'y va pas seulement pour parler, on y va d'abord pour agir, ou alors on n'y va pas du tout. Si on a juste envie de faire de la spéculation et des plateaux de télévision, on peut aussi rester à Paris. C'est pas la peine de prendre un mandat si c'est pour pas s'en servir. Et donc le vrai sujet pour moi, c'est de faire en sorte que nous, on revienne plus nombreux demain au Parlement européen. Et je ne le ferai pas. Je sais très bien que ce n'est pas d'abord par la dénonciation de ce schéma qu'on va y arriver. C'est aussi en se reconstruisant nous-mêmes. C'est d'abord en étant capable de porter avec efficacité la parole des Français. Mais c'est un enjeu majeur parce que si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à se reconstruire, ce sera une perte pour la possibilité pour la France de peser demain dans le débat européen. Et si on y arrive au contraire, j'en suis convaincu, alors on peut effectivement faire en sorte que l'Europe bifurque et retrouve la bonne direction. C'est ça qui compte pour moi, reconstruire une Europe qui aille dans le bon sens, dans tous les sens du terme.
J'entends bien, mais je reviens quand même sur ma question. Comment expliquer cette confiance, cette avance quasi décisive dans des sondages que l'on peut décider de ne pas prendre au sérieux, de la part du Rassemblement national?
Moi, je suis pas sondeur ou politologue. Moi, je suis engagé dans la vie publique, donc je ne vais pas commenter les sondages des gens. Ce que je dirais simplement, c'est qu'effectivement, tout est fait aujourd'hui pour nous vendre ce faux débat. Et qui raconte cette histoire?
Pourquoi un faux débat? Pourquoi est-ce que le...
Qui raconte cette histoire? Le 31 décembre, quand il fait ses vœux à l'Élysée, Emmanuel Macron dit, dans cette élection, c'est très simple, vous aurez deux choix. Soit vous voterez pour l'Europe, sous-entendu pour moi, soit vous voterez contre l'Europe, sous-entendu pour le RN. Moi, je suis désolé, mais qui met en scène aujourd'hui le RN? Qui met en scène le Rassemblement national? Qui a intérêt à n'avoir que le RN pour adversaire? Emmanuel Macron a une obsession. Une obsession. Depuis que je suis en politique, je le vois depuis 2019. Son obsession, c'est d'avoir le Rassemblement national comme partenaire démocratique, comme son autre, comme le point dans lequel... Comme d'une certaine manière, il construit son équilibre politique avec le Rassemblement national. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron
fonctionne. C'est un peu le propre de la politique. C'est-à-dire que François Mitterrand, à son époque, s'est peut-être appuyé sur Jean-Marie Le Pen pour l'emporter aussi.
Bien sûr. Attendez, restons-en là, c'est très intéressant. La vraie question qui se pose maintenant, du coup, et la vraie question qui est posée à tous les électeurs de droite, c'est est-ce que vous avez envie de jouer le jeu que François Mitterrand a inventé? Est-ce que vous avez envie de faire le jeu qu'Emmanuel Macron joue aujourd'hui, parce que c'est son jeu. L'obsession d'Emmanuel Macron, c'est de tuer un seul parti, pas le RN. C'est de tuer LR, c'est de tuer la droite française. Il le fait depuis le début. Quand il va chercher des gens individuellement pour essayer de casser ce parti de l'intérieur, quand il utilise des stratégies, des subterfuges qui viennent d'une certaine façon converger pour affaiblir ce parti, quand il fait en sorte que tout ce qu'on a réussi à gagner pour les Français, à travers par exemple le texte de la loi immigration, par lequel on avait réussi, et toutes les enquêtes d'opinion que vous citiez pour le coup le montraient, on avait réussi à faire bouger les lignes dans le sens qu'une immense majorité de Français voulaient. Quand on arrive à faire ça, Emmanuel Macron envoie tout ça à la poubelle avec la complicité du Conseil constitutionnel. Le but d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que la droite ne relève pas la tête. Et moi, je dis à tous les Français qui se sentent de droite aujourd'hui, à tous les Français qui n'en peuvent plus du macronisme, je leur dis, si vous voulez déjouer le piège, alors dans ce cas, faites exactement ce qu'Emmanuel Macron ne veut pas. Faites en sorte que la droite se relève. Et c'est ce que nous allons faire. On va y travailler. C'est à ça que je travaille depuis 5 ans maintenant, à incarner une ligne claire, une action déterminée et j'espère susceptible de susciter de nouveau la confiance des Français pour qu'effectivement on sorte de ce piège mortel d'un face-à-face qui est en réalité un jeu à deux, une forme de parti, de tango au détriment de la démocratie française entre Macron et le RN.
Est-ce que vous êtes certain que l'adversaire intime, l'adversaire direct d'Emmanuel Macron, ce soit les Républicains, quand au sein même de son gouvernement, il y a des anciennes figures de votre parti, je pense à Rachida Dati bien sûr, mais on peut aussi reprendre l'exemple de l'élection présidentielle, j'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron ait pris très au sérieux la campagne de Valérie Pécresse.
Mais pourquoi y a-t-il dans ce gouvernement des gens qui viennent de LR?
Parce que peut-être qu'eux, ils voient une survie de LR en intégrant le gouvernement d'Emmanuel Macron.
C'est absolument impossible dans la mesure où, quand vous regardez la réalité de l'action, la réalité du bilan, il n'y a rien dans l'action du gouvernement, des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, rien qui puisse faire penser à un électeur de droite que le compte y est. Et que c'est à droite aujourd'hui que ce gouvernement agit. C'est une question d'étiquette. Alors oui, effectivement, Emmanuel Macron a attiré par Vous savez, malheureusement, c'est toujours possible de trouver des gens qui préfèrent le calcul de leurs intérêts immédiats à la vision politique qu'ils disaient défendre et qu'ils prétendaient porter. Il a réussi à attirer des gens qui viennent de LR dans son gouvernement. Mais pourquoi l'a-t-il fait ? Pour tuer LR, précisément. Pour tuer la droite française. Parce que la vérité, c'est que le macronisme n'existe que s'il se donne cet adversaire fantasmé qu'est le populisme. Et finalement, c'est... mais c'est encore une fois un secret de Polichinelle, tout le monde le voit bien. En 2022, Emmanuel Macron n'avait qu'un seul projet, c'était d'avoir en face de lui Marine Le Pen. Et il a réussi d'ailleurs, il a réussi. De ce point de vue-là, il est le marionnettiste assez incroyable d'une vie politique française qui est devenue un théâtre d'ombre. Mais moi, j'en peux plus de ce théâtre d'ombre. Il faut parler aux gens de la vérité, de la réalité des choses, de la réalité des sujets. Et moi, ce que j'observe, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, quand on est sur le fond des sujets, quand on doit mener les combats les plus importants au Parlement européen, les plus décisifs, le Rassemblement national est juste absent, absent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte qu'on s'en sorte, que la France se reconstruise et que l'Europe se réoriente. Et ça, pour le coup... Mais ça suppose autre chose que des effets d'estrade, ça suppose autre chose que des grandes déclarations, des slogans faciles, ça suppose autre chose que ce faux débat entre Macron et Le Pen, qui en réalité n'en est pas un, et qui nous prive d'une conversation sérieuse sur les enjeux tels qu'ils sont devant nous pour la France et pour l'Europe.
Alors vous avez ouvert un chapitre que je voulais ouvrir avec vous, qui est celui des Républicains. Pendant la campagne présidentielle de 2022, le parti Reconquête vous faisait ouvertement du pied, c'est-à-dire que vous étiez attendu par Éric Zemmour pour rejoindre sa campagne. On a appris récemment dans la presse parisienne, alors on en fait ce qu'on veut, que Jordan Bardella vous avait proposé une place sur sa liste. Vous êtes estimé et par le Rassemblement National et par Reconquête, c'est-à-dire que vos adversaires que sont Mario Maréchal et Jordan Bardella vous reconnaissent une honnêteté intellectuelle, une ligne politique qui leur ressemble. Qu'est-ce qui vous rattache aux Républicains pour ne pas rejoindre ces deux offres politiques ?
Moi, j'ai fait un choix clair et j'en ai jamais changé. Je ne suis pas de ceux qui déterminent leurs engagements au gré de leurs intérêts. Peut-être que ça aurait été plus confortable d'aller d'un côté ou de l'autre, mais je ne changerai pas parce que j'ai une conviction très simple. Et je voudrais la partager avec ceux qui nous écoutent. La vie politique, elle s'inscrit dans des continuités historiques. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis de droite, je crois au temps long. Je crois à ces continuités historiques. Et je crois, pour ma part, qu'on n'arrivera pas à sortir ce pays de l'ornière sans que la droite revienne au pouvoir, revienne aux responsabilités. Une droite qui ait les idées claires, une droite qui sache ce qu'elle a à faire, une droite qui s'assume, qui ne soit pas complexée, qui ne soit pas timide, une droite qui refusait de baisser pavillon et de s'abîmer dans les compromissions. Mais pour que cette droite-là revienne au pouvoir, eh bien, il faut faire en sorte de reconstruire le camp politique dont la mission historique est de représenter la droite. Et ce camp politique, il se trouve aujourd'hui dans ce parti qui s'appelle les Républicains. On peut faire ce qu'on veut. À la fin, il y a une continuité historique. Ce parti, il existe. Il a dirigé la France pendant longtemps. Il a fait parfois du bien. Il a parfois échoué. Il a pu décevoir. Il a pu manquer à ses responsabilités. Parfois aussi, il a pu accomplir de grandes choses. En tous les cas, la situation en est là où nous en sommes aujourd'hui. Ce parti est là et sa mission dans la Ve République, c'est de représenter les électeurs de droite. Quel est le piège dans lequel on doit éviter absolument de tomber ? C'est celui qui consisterait à devenir une addition de chapelles, à devenir une sorte d'archipel de petites familles séparées dont chacune prétend qu'elle a le brevet de la vraie droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire de parler d'union des droites quand on crée un parti de plus ? Qu'est-ce que ça veut dire de parler d'union des droites quand on a juste créé une division supplémentaire ? Moi, je dis à tous les électeurs de droite, c'est assez simple comme message. Un parti, ça n'est rien d'autre que la somme de ses adhérents. Un parti, ça n'est rien d'autre que la somme de ses adhérents. Un journal, ça n'est rien d'autre que la somme de ses journalistes. Et donc, ce que les lecteurs choisissent et qui contribue à faire qu'un journal prend la ligne qu'il adopte. Si vous êtes en désaccord avec la manière dont les Républicains ont pu agir dans le passé, si vous êtes frustré par ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, si vous avez le sentiment de ne pas être assez bien représenté par cette famille politique, mais alors dans ce cas-là, c'est très simple, prenez votre carte, adhérez, parce que c'est de l'intérieur que vous pourrez changer les choses. Moi, je ne me suis pas engagé aux Républicains parce que j'étais d'accord avec tout ce qui s'était fait dans l'histoire. Je ne suis pas rentré aux Républicains parce que je voulais assumer tout le bilan de ce parti. Et d'ailleurs, ça m'amuse parfois quand des gens, parfois d'ailleurs beaucoup plus âgés que moi, me reprochent le bilan de LR quand LR était au pouvoir. Mais moi, pardon, j'ai jamais été ministre. J'ai jamais été au pouvoir. Je suis venu écrire l'avenir de la droite en France. Je ne suis pas venu revendiquer tout ce qui s'est fait dans le passé. Encore une fois, je le redis, je ne suis pas là non plus pour juger le passé, parce que c'est trop facile de juger le passé. C'est trop facile de dire tout a été mal fait quand soi-même, on n'a pas encore fait beaucoup. Donc, il faut commencer par, avec un peu d'humilité, se demander comment on peut servir. C'est la seule chose qui compte. Et pour pouvoir être vraiment utile, pas faire vivre sa petite boutique, sa petite écurie, pas faire sa petite promotion personnelle, eh bien, la première des choses à faire, c'est de commencer à creuser le sillon là où on en est, de prendre la charrue au point où elle est arrêtée et d'essayer de faire la ligne droite dont on a besoin, de tracer peut-être un peu plus droit si c'est possible que ceux qui étaient avant nous, de faire en tous les cas de son mieux pour apporter son propre effort à une tâche qui, c'est évident, nous attend. Parce que le plus important est devant nous maintenant. Mais si vous voulez, quelle est l'alternative ? Est-ce qu'il faudrait renoncer ? Est-ce qu'il faudrait baisser pavillon, se dire non, bah, finalement, moi je suis de droite, mais je vais aller dans un parti qui n'est pas vraiment de droite et qui dit le contraire de ce que je crois sur beaucoup de sujets. Je vais aller dans un parti qui représente une forme d'écurie supplémentaire qui s'est créée pour les besoins du moment. Bah, si vous voulez, j'entends, moi, j'entends les gens qui me disent voilà, mais venez chez nous, on est beaucoup plus vrai, beaucoup plus pur, beaucoup plus intègre, beaucoup plus dur que les gens des Républicains. Bon, d'abord, je vais vous répondre une chose très simple. Il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime dans d'autres formations politiques que la mienne. Il y a aussi des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime aux Républicains. Il y a des gens qui m'ont déçu aux Républicains. Mais il y a des gens que je n'estime pas du tout dans d'autres partis que le mien. La vraie question n'est pas est-ce que vous aimez les gens. La vraie question n'est pas est-ce que vous êtes certain de n'être entouré que par des gens très sympathiques. Parce que si c'est le cas, vous n'allez jamais trouver de parti politique. Vous allez créer le vôtre. Et moi, je peux créer aussi mon propre parti demain.
Je reviens sur ce que vous dites. Vous êtes considéré par plusieurs, par plusieurs figures de droite qui ne sont pas chez les Républicains. Mais d'après eux, votre parti politique et le parti des trahisons, et le parti des déceptions, etc. Comment vous expliquez que, d'après d'autres figures de droite, ce soit le parti des Républicains qui pose problème ? Est-ce que vous l'entendez d'abord, cette critique ?
Non, et j'entends très bien la critique, évidemment, et je comprends les déceptions. Et moi aussi, j'en ai vécu. Je veux dire par là que je suis d'une génération qui a grandi avec le souvenir d'une droite qui, aux responsabilités, a parfois, je le redis, ce serait trop facile de juger le passé, a parfois fait ce qu'il fallait et a parfois déçu. Mais comment serait-ce possible autrement ? Quel parti n'a pas parfois manqué de sérieux dans sa parole vis-à-vis des électeurs ? Enfin, pardon, mais s'il fallait trouver un parti qui n'a jamais connu la moindre contradiction, je voterais pas pour le RN. Je voterai pas pour Macron non plus. S'il fallait trouver des gens qui n'ont jamais manqué à la constance et à la clarté, je crois que je trouverais personne sur l'échiquier politique aujourd'hui. Et le vrai sujet n'est pas là, je le redis. Le vrai sujet, c'est comment on reconstruit la droite dans ce pays. C'est ça la vraie question. Et ma réponse, elle est très simple. Depuis le début, et j'en ai jamais varié, même si c'est difficile, même si ça suppose d'avancer à contre-courant, je continuerai. Parce que je crois que la seule et unique chance pour la France de se reconstruire, c'est que la droite relève la tête en France et que la droite, c'est le parti politique qui a pour mission de l'incarner. Est-ce que vous allez abandonner ce parti ? Vous vous sentez de droite. Vous allez abandonner le parti qui est chargé de vous représenter. Mais ce parti, il a peut-être un passif, mais enfin, il a quand même aussi encore un très grand actif. Ce parti, il a des milliers d'élus locaux qui travaillent partout en France, tous les jours, pour pouvoir servir les Français. Et ces élus-là, je peux vous dire, ils ont parfois bien plus de courage, de constance et de sérieux que ceux qui leur font des leçons et qui n'ont jamais touché à un mandat local de leur vie. Il a, ce parti, des parlementaires qui travaillent tous les jours avec détermination, avec courage. Moi, je ne me sens pas le seul. Je vais vous dire, vous disiez, on vous prête une ligne claire, mais je ne me sens pas le seul à avoir une ligne claire. Quand je parle avec les députés LR, avec les sénateurs LR, je peux vous dire que on parlait des sujets immigration, c'est eux qui ont fait le boulot au Parlement dans les derniers mois pour faire en sorte que les choses bougent. C'est eux qui vont faire le référendum d'initiative partagée dont la France a besoin pour pouvoir s'exprimer à nouveau sur le sujet migratoire. Et puis, la droite française, elle est aussi présente dans la droite européenne et c'est, pardon de le dire, c'est pas rien, une des forces politiques les plus importantes d'Europe. Si vous voulez que les choses bougent, il faut le faire de l'intérieur. Vous allez laisser ce terrain-là à vos adversaires politiques. Vous allez vraiment déserter le champ. Vous allez leur abandonner tout ça. Moi, je crois le contraire. Il faut aller à l'intérieur de ces structures, à l'intérieur de ce parti pour pouvoir peser de l'intérieur. Évidemment que parler du PPE, la droite européenne, évidemment qu'avec le PPE, je ne suis pas d'accord sur tout. Mais comme j'imagine, Marion Maréchal n'est pas d'accord surtout avec ECR, et comme Jordan Bardella n'est pas d'accord surtout avec ID, qui sont leurs partis respectifs. Moi non plus, avec le PPE, il m'arrive d'avoir des désaccords. C'est normal, ça s'appelle l'Europe. On a des alliés, mais ces alliés ne sont pas nécessairement sur la même ligne que nous sur tous les sujets. Mais justement, c'est en allant à l'intérieur de cette formation politique, qui est le parti de la droite en Europe, qu'on peut réussir à faire bouger les lignes, qu'on peut réussir à faire changer les choses.
Mais aujourd'hui, il y a un syllogisme qui s'est installé, et particulièrement chez les politiques de droite, c'est de dire, si on veut barrer la route à cette Union européenne, il faut barrer la route à Ursula von der Leyen. S'il faut barrer la route à Ursula von der Leyen, il faut barrer la route au PPE. S'il faut barrer la route au PPE, il faut barrer la route aux Républicains.
Ursula von der Leyen, elle est là à cause de qui? Elle est là à cause d'Emmanuel Macron. Le candidat du PPE en 2019, c'était Manfred Weber, qui est aujourd'hui le président du groupe politique auquel j'appartiens. Et moi, j'aurais été heureux que Weber soit président de la Commission européenne, parce que c'est celui qui s'est battu contre le délire de la politique agricole des dernières années. C'est celui qui s'est battu contre une politique environnementale qui organisait la décroissance. C'est celui qui se bat tous les jours pour faire en sorte qu'on retrouve une Europe qui soit capable d'offrir à nos entreprises la compétitivité nécessaire pour continuer à produire. Donc Weber, sa ligne, elle me convenait bien mieux que celle qu'a portée Mme von der Leyen. Elle a été nommée Ursula von der Leyen par Emmanuel Macron. Et en France, son camp, c'est celui d'Emmanuel Macron. Elle l'a montré d'ailleurs. Il y a quelques mois, en septembre, elle était aux universités d'été de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Elle a été nommée là par Emmanuel Macron et par Viktor Orban, ironie de l'histoire. Et au fond, le grand sujet pour nous, c'est de savoir comment on va réussir à faire en sorte que les choses se réorientent de l'intérieur. Effectivement, il y a des gens au PPE qui pensent qu'il faudrait continuer avec elle. Nous, ce n'est pas notre avis et c'est de l'intérieur qu'on va peser pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais le plus important, au-delà même des personnes, au-delà des incarnations, le plus important, c'est la ligne de fond. Et je le redis aujourd'hui, cette ligne, elle va s'écrire d'abord dans des partis politiques qui sont engagés au cœur du travail des institutions. Et ce parti de la droite européenne qu'est le PPE devrait être notre parti. Et je le redis, ça vaut exactement de la même manière que pour LR en France. Si vous avez le sentiment, vous qui êtes de droite, de ne pas vous retrouver complètement dans ces formations politiques, alors mais c'est une raison de plus pour adhérer. Il y a beaucoup de gens qui me disent, vous évoquiez tout à l'heure ce type de réflexion, beaucoup de gens qui me disent, je les croise comme ça, qui viennent me voir et qui me disent, on vous aime beaucoup, mais qu'est-ce que vous faites chez LR? Mais j'ai envie de leur dire, si vous m'aimez bien, si vous avez l'impression que ce que je fais est utile, j'espère, à ma mesure, si vous avez l'impression que ce que je dis correspond à ce que vous attendez, mais alors dans ce cas, venez.
Oui, mais on ne vote
venez,
pas.
Oui, mais venez avec moi.
On ne vote pas pour le tête de liste. On vote pour la liste.
Bah, on vote
derrière.
Pour qui alors? Oui, bien
on
sûr.
Pour la liste qui est derrière. Mais, et la mais liste, elle n'est pas.
Vous me demandiez comment la liste va être construite. Moi, je vous réponds très simplement. Cette liste, on l'a construite avec Éric Ciotti. Je ne pense pas non plus qu'on puisse dire qu'Éric Ciotti est dans le, en même temps dans la compromission, dans le reniement. Au contraire, ce que j'apprécie chez lui, c'est sa clarté, c'est son courage, c'est sa détermination, c'est le fait qu'il n'a jamais varié sur les sujets les plus importants pour l'avenir du pays. Cette liste, on l'a construite ensemble avec, dans l'esprit, la volonté d'offrir une liste qui soit claire sur le fond, mais qui soit aussi, et ce n'est pas négligeable, efficace pour l'action. Parce que c'est ça qui compte pour nous, de construire une liste qui pourra demain gagner des points, mener des batailles, remporter des combats, faire bouger les lignes, peser dans les négociations. C'est ça l'Europe, c'est ça la politique. La politique, c'est pas seulement faire des déclarations, je vous le redis, c'est pas seulement l'art du slogan, c'est pas seulement faire une communication efficace pour rallier les électeurs. La politique, c'est d'abord prendre les Français au sérieux, prendre les sujets au sérieux et être capable, encore une fois, de changer l'histoire, de reprendre la main sur notre destin. C'est pas un petit défi. Et ce défi-là, il est dans nos mains et il se jouera nulle part ailleurs que chez nous.
Ça d'ailleurs sur l'état du débat politique actuel, c'est une question que je voulais vous poser parce que parmi les qualités qu'on vous prête, c'est le fait de, comment dire, d'élever un petit peu l'état du débat politique. Comment est-ce que vous pouvez tirer votre épingle du jeu dans un monde, dans un débat politique qui consiste à être le plus efficace en 140 caractères sur Twitter? Est-ce que vous regrettez d'abord cette époque? Vous l'avez déjà sûrement dit. Est-ce que face à ce constat-là, on ne regrette pas des Philippe Séguin, des François Mitterrand même, peu quelque part, pour la qualité du débat politique.
Ah, il faut enregistrer. Dans le studio de VA+, on regrette François Mitterrand.
Non, mais par exemple, il y a eu,
mais je suis d'accord avec
le décès de Robert Badinter.
Bien sûr.
Qu'on soit d'accord ou non avec l'abolition de la peine de mort, est reconnu pour être quelqu'un qui a élevé l'état du débat en France.
Non, mais c'est un immense sujet, la question que vous posez. On peut pas renier son époque. Il faut l'assumer. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a une vraie question qui nous est posée à tous les responsables politiques, mais aussi à tous les citoyens. La question est-ce qu'on veut prendre la démocratie au sérieux? La démocratie, vous savez, c'est un mode de gouvernement qui est infiniment vulnérable, qui nous paraît une évidence, mais qui est un petit miracle historique. Un petit miracle profondément lié à l'histoire de notre civilisation. Elle est née au 5e, au 4e siècle avant Jésus-Christ dans les cités de la Grèce antique. Et on reçoit de cette histoire cette forme d'organisation de la société qui consiste à prendre nos décisions en délibérant, c'est-à-dire en parlant ensemble, plutôt qu'en attendant tout de quelqu'un qui décide pour nous. Eh bien ça n'a rien d'une évidence. Ça suppose de parler ensemble. Ça suppose d'avoir le temps de se parler, d'aller au fond des sujets. Ça suppose de se renseigner, de s'informer. Et pour pouvoir se renseigner, s'informer, pour pouvoir connaître la réalité des enjeux auxquels on est confronté, pour pouvoir essayer de rentrer dans la complexité du réel, il faut, c'est vrai, un peu plus que quelques vidéos sur TikTok. Et le fait est que le grand sujet pour nous aujourd'hui, c'est celui de savoir si on veut rester des citoyens libres, des hommes et des femmes libres, maîtres de notre destin. Et ça dépend pas seulement de ceux qui, au-dessus de vous, prennent les décisions. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre capacité à cultiver cette liberté. Donc, vous me demandiez, est-ce que je regrette mon époque? J'essaye, en tous les cas, je crois que c'est important. J'essaye de créer les antidotes à cette frénésie de l'accélération, à cette superficialité permanente, à cette dictature de l'image qui voudrait s'imposer à nous. J'ai tenté, par exemple, pendant tout le mandat, pendant les 5 ans passés au Parlement européen, chaque semaine, de partager à travers une vidéo un peu approfondie un sujet du travail européen, d'expliquer ce qu'on faisait. Et après, libre à chacun de se faire son avis, bien sûr, de trouver qu'on a pris la bonne option ou bien pas la bonne ligne, mais au moins de faire en sorte qu'on puisse prendre le temps de rentrer dans le fond des questions, parce que voilà, la question migratoire, elle est cruciale pour notre avenir, mais elle est compliquée. Et faire croire que c'est très simple, c'est mentir aux gens. La question économique, elle est fondamentale pour pouvoir garder notre prospérité demain. Et c'est compliqué. Et ça suppose de rentrer dans le fond de sujets qui sont importants. Tout le monde peut le faire. C'est pas réservé à des gens qui sont des techniciens. C'est mon désaccord absolu avec le macronisme. Moi, je crois pas qu'il y ait d'un côté des experts et de l'autre côté des gens qui savent pas. Et d'ailleurs, ce président qu'on nous avait vendu comme le Mozart de la finance laisse la France dans un état économique absolument désastreux. Je pense que tous les citoyens peuvent s'approprier tous les sujets. Mais pour ça, il faut, d'une certaine manière, y consacrer un peu de temps, un peu d'attention, faire l'effort de se plonger un peu dans l'actualité pour comprendre vraiment ce qui se joue. Et mon grand regret, en effet, c'est que souvent, on est devant des images plus que devant des réalités. Et souvent, on se contente d'images au lieu d'aller chercher la réalité derrière.
Ma dernière question, dans cette élection qui s'ouvre, quel est votre adversaire ?
Dans cette élection, quel est mon adversaire ? Moi, j'ai un seul adversaire. C'est tout ce qui cause le déclin de la France aujourd'hui. Mon adversaire, c'est le défaitisme. Mon adversaire, c'est le découragement. Mon adversaire, c'est la résignation. Mon adversaire, c'est une certaine vision de l'histoire qui voudrait expliquer aux Français qu'ils doivent, parce que c'est obligatoire, abandonner leur souveraineté, la maîtrise de leur destin. Et de ce point de vue-là, mon adversaire, évidemment, c'est politiquement, aujourd'hui, la gauche, c'est le macronisme, qui sont les deux facettes similaires d'une même forme d'organisation du déclin français. Le déclin de la France, il n'est pas lié au fait, et je le redis, c'est très important, il n'est pas lié au fait que nous serions devant des puissances qui sont trop fortes pour nous. Il n'est pas lié au fait que nos concurrents sont meilleurs que nous. Il n'est pas lié au fait que nous serions devant des menaces que nous n'avons pas la force de supporter. Le déclin de la France, il vient de ce que nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui en train de nier notre droit à agir sur notre histoire. Ce n'est pas des opposants extérieurs qui ont dit qu'il n'y a pas de culture française. C'est Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas des adversaires extérieurs qui nous ont expliqué que la France était coupable de crimes contre l'humanité dans son histoire. C'est Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République. Et ce faisant, il n'était pas la racine de notre crise, mais il en était le symptôme de cette espèce de volonté de disparaître, de cette espèce de tentation que la France connaît aujourd'hui de se mettre au bord du chemin et de se laisser mourir. Et moi, je ne veux pas de ça. Et mon adversaire, il est d'abord là. Il est dans les faux débats qu'on voudrait nous imposer, qui nous empêchent de nous poser les vraies questions. Il est dans le fait qu'aujourd'hui, vous avez une gauche qui spécule sur le droit à la paresse, qui malheureusement est épaulé en cela par le Rassemblement national, qui par certains aspects, en prenant encore tout récemment le parti des syndicats contre les Français bloqués au moment des grèves, qui continue d'entretenir l'idée que, au fond, on pourrait relever le pays sans se remettre à travailler, sans se retrousser les manches, sans vouloir se donner à fond. Et moi, je crois que, justement, nous avons devant nous un grand avenir à condition de faire l'effort, à condition de s'en donner les moyens, à condition de choisir vraiment les options qui nous permettront de retrouver la maîtrise de notre destin. Mais ça se fera pas sans travail, ça se fera pas sans détermination, ça se fera pas sans volonté, ça ne se fera pas sans constance, sans lucidité, sans clarté. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, peut-être un peu à contre-courant, contre vents et marées, je suis convaincu qu'il faut persister, persévérer, qu'il faut vouloir refaire cette droite qui relèvera demain le pays. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, dans cette élection se joue une partie importante, pas seulement pour l'avenir du continent européen, mais aussi pour l'avenir de la France. Et moi, je dis à tous ceux qui se demandent où aller, qui se demandent dans quelle direction s'orienter, mais si vous voulez que ce pays relève la tête, alors aidez-nous à reconstruire la droite qui lui permettra demain de retrouver le bon cap. Et ça, encore une fois, je le redis, eh bien, ça passe par vous, par chacun d'entre vous. Que vous soyez content ou non de ce qui s'est passé dans l'histoire politique de notre pays, et vous avez bien des raisons d'être mécontent, je les partage avec vous, mais que vous soyez frustré ou non par ce qui a été fait dans l'histoire, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'avenir, et ce qui compte, c'est de faire en sorte que, avec vous, on reconstruise une formation politique de droite qui a aujourd'hui encore les moyens d'être le levier par lequel la France retrouvera la maîtrise de son destin.
Merci beaucoup.
Merci à vous.